Décryptage, Marie Cazadebé.
400 ans après l'arrivée des premiers esclaves sur le sol américain, la question de l'indemnisation de leurs descendants est relancée aux États-Unis. Des élus ont présenté hier un projet de loi et des candidats démocrates à la présidentielle se sont emparés du sujet, soigneusement évité depuis des années.
Les États-Unis ont un terrible passé raciste. Nous devons l'assumer.
Nous dédommageons les gens quand nous leur prenons leur propriété. Ne devrions-nous pas dédommager les personnes qui étaient eux-mêmes une propriété ?
Principal argument des partisans d'une réparation, la minorité afro-américaine vit encore les conséquences de l'esclavage à travers la discrimination et les inégalités. Mais 150 ans après l'abolition, seuls 26% des Américains sont favorables à une indemnisation. Alors quels sont les termes de ce débat et pourquoi ressurgit-il aujourd'hui? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Cécile Coquet-Mokoukou.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la civilisation américaine. Vous enseignez à l'université de Tours, dans le centre de la France. Alors je le disais, plusieurs candidats démocrates à la présidentielle qui promettent, une fois à la Maison-Blanche, d'indemniser les descendants d'esclaves, n'est-ce pas inédit aux États-Unis, ne serait-ce le fait que la réparation soit un argument de campagne?
Alors effectivement, c'est une proposition qui a été soigneusement évitée. Le premier politicien à évoquer cette possibilité était Jesse Jackson lorsqu'il a mené une campagne pour la présidentielle en 1988. Et à l'époque, c'était quelque chose qui était tout à fait, qui était considéré comme infaisable et irréaliste. Beaucoup plus récemment, aussi bien Barack Obama que Hillary Clinton ont déclaré qu'ils étaient opposés à une indemnisation financière des descendants d'esclaves. L'idée étant que on ne résout pas le problème en donnant un chèque aux descendants des esclaves.
Alors pourquoi, selon vous, le sujet ressurgit-il aujourd'hui ?
Alors, le fait que les Américains aient élu en 2016 un candidat qui était vraiment en dehors de l'establishment a envoyé un signal aux démocrates qui ont estimé qu'il fallait eux aussi poursuivre une sorte d'adjournamento en mettant en avant des candidats qui n'étaient pas forcément des candidats d'establishment. Donc, ils ont des étoiles montantes parmi eux, certains sénateurs relativement jeunes ou d'anciens ministres du gouvernement Obama, qui représentent d'une manière assez ouverte et explicite les intérêts de minorités et qui n'ont plus un discours qui cherche forcément à rassembler les Américains au-delà des barrières de couleur.
Et pourtant Donald Trump est assez ouvert aux voix des suprémacistes blancs. On n'a pas donc l'impression que ce soit le bon moment aux États-Unis pour défendre justement la question des réparations. Est-ce que vous me donnez tort ou vous pensez justement que c'est le moment, il y a un moment historique qui se présente pour cette question-là?
Alors, ce que disent les militants et les personnalités qui ont été invitées à témoigner devant le comité judiciaire de la Chambre des représentants, c'est que pour les mesures visant à une justice, à plus de justice sociale aux États-Unis, ce n'est jamais le bon moment. Donc, on peut quand même arguer du fait qu'un nombre croissant d'Américains ont demandé à être représentés par des personnalités issues de minorités ethniques, raciales, sexuelles, avec les dernières élections de mi-mandat, et que ça a été considéré comme un signal pour les démocrates qui se disent qu'il faut ne plus hésiter à se renouveler et aussi considérer la transition démographique donne à voir une Amérique de plus en plus plurielle et de moins en moins camper sur des positions très blanches anglo-saxonnes protestantes.
En 2013, naît le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. La vie des Noirs compte. Après la mort d'un adolescent noir pris pour un délinquant, c'est par un homme qui coordonnait la surveillance de son quartier, s'en suivront de nombreuses manifestations pour protester notamment contre les violences policières contre les Noirs, comme début décembre 2014 à Washington, après la relaxe d'un agent impliqué dans la mort d'Eric Garner.
Le problème de la brutalité policière dure depuis trop longtemps et je pense que le manque de poursuites à New York nous montre que l'heure est venue pour nous de prendre parti.
Malheureusement, c'est un état de fait. Je suis un homme noir originaire de Géorgie, dans le sud profond. J'ai l'habitude de la brutalité et il faut des affaires comme celle-là pour qu'on en parle.
I can breathe, je ne peux pas respirer. C'était la phrase qu'Eric Garner avait répétée 11 fois lors de son arrestation, donc avant de mourir de suffocation. Cécile Coquet-Mokoko, le mouvement Black Lives Matter a-t-il eu un effet justement sur la prise en compte par les politiques, mais aussi par les Américains blancs, des discriminations que connaissent les Noirs au quotidien aux États-Unis? Est-ce que ça a joué?
Alors effectivement, c'est quelque chose qui est assez délicat à faire entendre, parce que l'histoire américaine n'est pas forcément enseignée sous tous ces aspects aux jeunes Américains notamment. Et il est assez facile, étant donné que les Américains vivent dans des milieux très marqués par la ségrégation encore de nos jours, et même si cette ségrégation est théoriquement interdite par la loi, il est donc impossible pratiquement à des Américains blancs de comprendre les réalités vécues par des Américains noirs. Mais quand on observe de près l'histoire américaine, on voit qu'une criminalisation de la population qui venait d'être émancipée de l'esclavage s'est mise en place dès les années 1870. Il suffisait de vous promener dans une rue sans un permis de travail écrit pour être considéré comme un vagabond et être immédiatement mis en prison. Et les prisons avaient un système qu'on appelait le convict leasing, donc le leasing de bagnards, qui leur permettait de mettre au travail sur des plantations des Noirs qui avaient été arrêtés sans motif véritablement valable, de façon à les faire travailler à nouveau de manière complètement gratuite.
Alors, si la mobilisation des candidats démocrates, vous disiez, est plutôt nouvelle, en tout cas dans le cadre d'une campagne électorale, le texte baptisé HR 40, défendu hier par plusieurs élus devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, lui n'est pas nouveau du tout. Ça fait longtemps qu'on le ressort, même très régulièrement. C'est quoi l'histoire de ce texte, avant de rentrer dans les détails de son contenu?
Alors, en fait, il faudrait même remonter jusqu'à 1865 avec le général Sherman, qui était un général blanc, une véritable terreur pour les sécessionnistes, puisqu'il brûlait les plantations. Il avait proposé une indemnisation des esclaves à hauteur de 40 000 acres de terre, donc 20 000 hectares. Et c'était ce fameux slogan des 40 acres et une mule qui devait être affecté à chaque esclave. En réalité, même à l'époque, les chiffres n'étaient pas exacts parce qu'on avait environ 4 millions d'Américains qui étaient réduits en esclavage et qui travaillaient gratuitement. Plus récemment, ce projet de loi nommé HR 40, justement en hommage à ces fameuses 40 acres et à la fameuse mule, avait été proposé par le représentant John Conyers dès 1989 et avait été systématiquement remis au débat tous les ans jusqu'à la démission de ce représentant en 2017, et le combat a été repris par une démocrate texane.
Qu'on va entendre dans un instant. Ça veut dire que tous les ans il reproposait ce texte. Pour l'instant, il n'a jamais dépassé le cap justement de la proposition, la seule proposition.
Exactement. Et ce qui est demandé à l'heure actuelle, c'est que le Congrès vote un budget de 12 millions de dollars pour mettre en place une commission bipartisane, c'est-à-dire réunissant les membres des partis démocrates et républicains, qui travaillerait justement à l'estimation du préjudice subi par les esclaves et leurs descendants en termes de ségrégation et d'accès inégal au logement et à l'emploi, et aussi à des écoles de qualité.
Vous parliez donc de cette députée démocrate du Texas qui s'est emparée du texte, c'est Sheila Jackson Lee. Elle précise son objectif.
L'initiative n'est pas motivée par la colère, mais par la reconnaissance du péché originel de ce pays, à savoir l'esclavage. L'objectif, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais des solutions.
Alors la question que pose ce débat et ce texte, c'est d'abord, qui indemniser 150 ans après l'abolition? Est-ce que c'est si facile, Cécile Coquet-Mokoko, aujourd'hui, pour des Afro-Américains, de prouver qu'ils sont des descendants d'esclaves et donc qu'ils pourraient avoir le bénéfice justement d'une indemnisation, pardon, pour le préjudice vécu par leurs ancêtres?
Effectivement, c'est pas si simple que ça, parce que les recensements qui se passent tous les 10 ans aux États-Unis, toutes les années en zéro, ne comptent pas nécessairement les esclaves, puisqu'ils étaient considérés comme les 3/5 d'un citoyen dans une des clauses de la Constitution, ce qui permettait à leur maître de peser plus en termes de voix. Ce qui est proposé par les militants et chercheurs qui ont soutenu et donné des arguments à ceux qui ont proposé ce projet de loi, c'est qu'on revienne à l'initiative d'une femme noire qui lavait le linge d'une famille blanche à la fin du 19e siècle et qui avait été elle-même esclave, Cette femme s'appelait Callie House. Et en 1898, elle avait lancé l'initiative de faire une pétition collective au Congrès pour réclamer une indemnisation des anciens esclaves. Et l'année 1900, cette femme avait réuni 300 000 signatures qu'elle envoyait au Congrès. Donc concrètement, les personnes qui proposent que l'on chiffre des réparations et que l'on identifie des descendants d'esclaves sur le continent américain proposent qu'on reprenne ces listes, tout simplement.
Ça veut dire qu'on parle de combien de personnes? Qui sont les descendants? Quels sont... leur chiffre, est-ce qu'on a une idée? Puisqu'on parle de 13% d'Afro-Américains aux États-Unis, est-ce que l'on parle finalement que des descendants d'esclaves?
Effectivement, c'est une question qui est complexe, vous avez raison de la poser, parce que les 13% que constitue la minorité africaine-américaine sont aussi des descendants de personnes qui ont été réduites en esclavage dans les Antilles britanniques, dans les Antilles françaises, notamment à Saint-Domingue, qu'on appelle aujourd'hui Haïti, où des milliers d'émigrés français qui étaient esclavagistes sont partis en Louisiane pour pouvoir continuer à vivre du travail de leurs esclaves. Et évidemment, ces esclaves antillais se sont mélangés à la population esclave du continent américain. À ceci s'ajoutent évidemment des immigrés africains comme le père d'Obama, qui avait été bénéficiaire d'une bourse d'études dans les années 1960. Donc ils sont tous réunis sous le vocable d'Africains-Américains, mais en réalité tous ne sont pas des descendants d'esclaves. Et cela induit des tensions à l'intérieur de la minorité noire aux États-Unis.
Ça risque effectivement de créer des dissensions et peut-être même des, on va pas dire des jalousies, mais en tout cas des problèmes de... d'étiquetage aussi, j'imagine, de ces gens-là. Alors donc la première question compliquée, c'est qui indemniser? Et maintenant, c'est quoi indemniser? L'estimation du préjudice. Là aussi, sur ce sujet, quelles sont les principales idées défendues par les partisans des réparations? Qu'est-ce qu'il faut réparer?
Alors c'est effectivement un domaine où les candidats sont assez prudents. Seule une candidate, Marianne Williamson, a proposé une estimation qui est en deçà de ce qu'il faudrait payer selon les estimations des historiens, puisqu'elle propose 200 à 400 millions, alors que les historiens spécialistes de la question du racisme institutionnel et des discriminations systémiques évaluent le préjudice en milliers de milliards.
Parce qu'en fait, la grande différence, c'est ça, c'est entre ce que les Noirs américains ont apporté, pardon, les descendants d'esclaves ont apporté à la richesse des États-Unis, une richesse à laquelle d'ailleurs ils n'ont pas eu accès. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi toutes les inégalités, les discriminations que vivent aujourd'hui les Afro-Américains. C'est ça, les deux thèses, en fait, qui se confrontent.
Exactement. On ne parle pas de ce qu'était le Sud esclavagiste, mais un chiffre qui m'a particulièrement frappé lorsque j'ai préparé mes cours et j'ai travaillé sur ces statistiques, c'était que la fortune amassée par les esclavagistes dans les 11 États qui ont fait sécession, au tout début 1861, était équivalente au budget fédéral. Et si on la traduisait dans les termes économiques actuels, elle équivaudrait à l'une des pétromonarchies du Golfe. Donc ça nous parle actuellement. Ce que les candidats du côté démocrate soulignent, ce sont les réalités des inégalités systémiques que connaissent les Africains-Américains depuis la ségrégation qui est en continuité directe de l'esclavage.
Et du coup, certains prônent une réparation par le biais de programmes sociaux envers les Afro-Américains, partant du principe que les inégalités entre Noirs et Blancs aux États-Unis sont la conséquence directe de l'esclavage. Écoutez l'auteur afro-américain Ta-Nehisi Coates, qui s'exprimait hier devant la commission de la Chambre des représentants.
C'était il y a 150 ans, mais c'est aussi aujourd'hui. Aux États-Unis, une famille noire est en moyenne 10 fois plus pauvre qu'une famille blanche actuellement. Et il y a cette honte pour le pays de la liberté qui compte le plus grand nombre de personnes emprisonnées au monde, dont la majorité sont des descendants d'esclaves.
Dans ce débat à propos de la réparation de l'esclavage, il y a une expression qui revient très souvent, c'est le péché originel des États-Unis. À quel point l'esclavage explique aujourd'hui les inégalités entre noirs et blancs aux États-Unis?
Alors, pour avoir vécu en Alabama pendant un an et demi, j'ai pu voir, sous Obama en l'occurrence, pendant les années 2009-2010, les conséquences très visibles et tangibles de cette division, de cet antagonisme et de cette incompréhension entre noirs et blancs. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que la ségrégation résidentielle est pratiquement à la source de toutes les autres inégalités. Si vous vivez dans un quartier qui est majoritairement noir, vous avez des écoles de quartier qui sont majoritairement noires et dont l'inégalité par rapport à des écoles plus mixtes ou blanches est absolument criante. J'avais des étudiants qui m'expliquaient que le seul voyage scolaire, la seule sortie scolaire qui avait été proposée à leurs nièces et neveux âgés de 8 à 10 ans, c'était la visite de la prison locale. Donc, d'accord, comme perspective d'avenir, on reconnaîtra qu'on fait mieux que ça. Pourquoi est-ce que cette ségrégation résidentielle persiste alors même que lois ont été votées pour que les Noirs bénéficient de droits civiques, les Noirs et d'autres minorités, mais surtout les Noirs. On a des systèmes d'accès aux prêts immobiliers qui sont inscrits dans les pratiques, sinon dans la loi. Cela s'appelle le redlining, c'est-à-dire que les banquiers on avait cette pratique qui consistait à entourer d'une ligne rouge les quartiers qui étaient considérés comme à risque sur le plan financier, c'est-à-dire où le fait de donner un crédit immobilier mettait la banque en danger de ne pas se voir rembourser. Or, ces quartiers étaient entièrement des quartiers noirs. Les blancs ne souhaitant pas se mélanger aux noirs au lendemain de l'esclavage, puisque le droit de vote avait été accordé aux hommes noirs, la ségrégation s'est implantée comme une pratique durable. Mmh. Et par conséquent, les habitants de ces quartiers se voyaient imposer des taux de remboursement d'éventuels prêts immobiliers qui étaient tellement prohibitifs qu'il était impossible d'accéder à la propriété. Donc ils étaient coincés dans ces quartiers, ne pouvant pas vivre ailleurs. Et c'est pour cela qu'on a des ménages noirs qui sont 10 fois plus pauvres que des ménages blancs parce qu'ils ne peuvent pas transmettre de propriété.
Les États-Unis ont connu beaucoup d'autres vagues d'immigration. Les inégalités, les discriminations, il n'y a pas que les Noirs, les Afro-Américains qui les connaissent. Pourquoi la situation reste aussi singulière pour les descendants d'esclaves ?
Parce que beaucoup d'immigrés ont compris qu'il fallait qu'ils se distancent du statut des Noirs américains, qu'ils n'acceptent pas le même type de salaire que des Noirs libres. Et qu'ils deviennent racistes, c'est-à-dire qu'ils s'identifient à la conception qu'ont les blancs anglo-saxons puritains, enfin d'origine puritaine ou protestante aux États-Unis, en ne faisant jamais cause commune avec les noirs. D'autres minorités ont effectivement été victimes de discrimination, mm-hmm, ou de ghettoisation. On pourrait prendre le cas du quartier d'Harlem, qui avant d'être un ghetto noir à New York, était un ghetto juif. Et les juifs américains ont compris qu'il était dans leur intérêt, s'ils pouvaient accumuler un capital, de sortir du ghetto. Le problème des Africains américains est qu'ils sont la dernière échelle sociale et qu'ils ne peuvent pas sortir des ghettos.
Il va nous rester un peu plus d'une minute pour passer peut-être en revue maintenant les arguments de ceux qui sont totalement opposés à la réparation de l'esclavage. C'est le chef notamment de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, qui dit pourquoi payer pour ce qu'on fait nos ancêtres ? Il y a eu une guerre entre-temps. Est-ce que c'est ça le principal argument de ceux qui sont contre ?
C'est effectivement le principal argument parce qu'ils pensent en termes de responsabilité personnelle, ce qui est quelque chose de très parlant pour les Américains. Or, il s'agit là d'un déni des réalités institutionnelles. Les pratiques des banques, on ne peut pas les imputer à une personne en particulier. Et effectivement, si on regarde le chiffre, les statistiques disant quel nombre de familles américaines possédaient des esclaves, on va voir que c'est une minorité. Mais comme on vient de le voir, le statut de blanc donnait la citoyenneté. Et par conséquent, priver des droits civiques et des droits à un traitement égal, notamment par les banques ou par les écoles, les Américains qui, depuis des générations, avaient été réduits en esclavage sur leur propre sol.
Selon les sondages, en tout cas, seulement 11% des Américains blancs sont favorables à une réparation de l'esclavage. On comprend donc que ce texte a peu de chances encore de faire son chemin. Merci beaucoup, Cécile Kokemokoko, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence donc en civilisation américaine à l'Université de Tours. Merci à toute l'équipe de Décryptage, Éléonore Krenik, Charles Mamère, Charles Barré et Hélène Avril à la réalisation. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité. Merci.